cette nuit sans orage, qui soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Voyez comme ils s'aiment, voyez le bonheur. Bon, ça y est, le trouble est déjà pris, il y en a qui se mettent à danser. Bon, alors on peut s'asseoir. On a pensé que finalement le son était meilleur avec ce micro-ci. Pensez-vous que c'est vrai? Oui, donc ça va être plus simple que je parle à partir de ce micro-ci. Alors là, aujourd'hui, contrairement aux deux premiers jours, c'est moi qui parle dans l'après-midi. Vous êtes déçus, hein? Vous penseriez que ça serait de vous être? Alors, restez pareil. Elle va parler ce soir, de toute façon. Fait que ça sera pas trop pire. Alors, je vous rappelle, hier soir, s'il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de célébrer le sacrement du pardon, ou qui ont eu l'occasion de le célébrer, mais qui se disent, j'aimerais tout de même parler un peu plus longuement avec un prêtre. Alors, pendant la période de partage en équipe, André Breton et moi, on sera disponibles si vous voulez nous rencontrer. Si personne demande à nous rencontrer, on va participer à l'échange en équipe, mais n'ayez pas peur de nous déranger. Si vous voulez vraiment parler avec un de nous deux, vous venez nous le dire tout simplement. Alors, cet après-midi, donc, le thème, c'est « La vie communautaire, c'est un miracle ». Donc, si c'est un miracle, il faudrait qu'on dise quoi, déjà? Wow, c'est pas fort. Là aussi, ouais, wow, merci, puis s'il vous plaît, des fois. Alors, la vie communautaire, la capacité de vivre en communauté comme des frères et des sœurs, c'est un miracle, c'est un don de Dieu, c'est un sujet d'émerveillement. C'est ça qu'on va essayer de se dire cet après-midi. Alors, je pense qu'il y a un petit peu comme une parabole, comme une image de ça dans ce qu'on a vécu hier dans le lavement des pieds, hein? Parce que ce qui nous rend capable de vivre ensemble ce geste-là, c'est vraiment parce qu'on croit à l'action de Jésus puis de l'Esprit de Jésus avec nous. Je suis à peu près certain qu'il y a ici dans l'Église deux, trois personnes, au moins, que quand hier, ils se sont réunis pour le lavement des pieds, puis qu'ils ont regardé à côté d'eux autres, puis qu'ils ont dit, « Ah non, pas elle qui va me laver les pieds. » Ou qu'ils ont regardé de l'autre côté, qui ont dit, « Ah non, pas lui à qui je dois laver les pieds. » Hein? C'est pas une question d'attirance humaine, vivre la vie communautaire. C'est pas une question qu'on doit nécessairement devenir des chums, des amis intimes. Ça veut pas dire parce que je vis la vie communautaire avec quelqu'un que j'ai envie d'aller au cinéma avec lui le lendemain soir ou de l'inviter à venir au restaurant. Mais ça veut dire que par l'esprit, par l'action de l'Esprit de Jésus, ben, on se considère comme des frères et des sœurs, puis qu'on essaie de faire attention les uns aux autres pour s'aider à vivre comme des meilleurs disciples de Jésus. Tant mieux si on devient des amis, tant mieux si on trouve quelqu'un à qui on peut faire des confidences, puis sur qui on peut se fier, puis qui nous accompagne dans la vie, mais c'est pas nécessairement ça la vie communautaire, c'est d'essayer de vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Encore une fois, si on n'avait pas ce désir-là, si on n'avait pas cette action-là de Jésus dans nos vies, bien, un geste comme le lavement des pieds, naturellement, n'aurait pas de sens. Mais étant donné que nous avions ce désir-là dans nos cœurs, puis qu'on l'a encore, je pense, aujourd'hui, bien, ce qu'on a vécu hier, je pense, pour beaucoup d'entre nous, ça a tout de même été un moment fort, un moment important, un moment qui nous a marqué dans notre retraite, puis aussi dans l'ensemble de notre vie. Alors, aujourd'hui, bien, on va essayer de se redire un petit peu comment c'est important, la vie de communauté, puis comment C'est un miracle, c'est quelque chose de merveilleux qui nous est donné par l'action de Dieu, puis notre ouverture à l'action de Dieu dans nos vies. D'abord, c'est bien important de se dire, ça a été comme ça dès le début de l'Église, hein, que l'Esprit de Jésus a réuni ensemble des personnes qui n'étaient pas nécessairement si semblables que ça. Bon, d'accord, dans les premiers apôtres, il y en avait quatre au moins qui étaient apparentés, puis qui allaient à la pêche ensemble, puis qui donc devaient se connaître pas mal, là, depuis longtemps dans leur village, des amis d'enfance peut-être, mais rapidement, Jésus a regroupé autour de ces quatre premiers-là d'autres apôtres, en particulier un qui n'avait pas un métier sympathique du tout, un collecteur d'impôts. C'est qui aime ça, les collecteurs d'impôts, aujourd'hui, là? Ben, c'était pareil dans le temps de Jésus, c'était pire, parce qu'il connaissait le monde personnellement. Il allait lui-même chercher l'argent dans leur poche. Aujourd'hui, au moins, on envoie un chèque, c'est moins pire un peu. Mais alors, Jésus a rapidement réuni des apôtres, des gens qui étaient assez différents tout de même pour faire ces apôtres, et autour d'eux, des femmes de différentes provenances qui les accompagnaient, qui les aidaient, qui priaient avec eux. Donc, tout de suite au début, le groupe le plus proche de Jésus, c'était pas nécessairement parce que ces gens-là avaient tant de ressemblance que ça ou d'affinité que ça, mais c'est parce qu'ils ont tous accepté de répondre à un appel. Et dès le jour de la Pentecôte, ben là, vous vous souvenez, hein, quand on va à la messe de la Pentecôte, là, le lecteur en avant qui lit la première lecture, ça vous est toujours arrivé de lire la première lecture de la Pentecôte comme lecteur ou comme lectrice? Il a toujours un petit peu chaud, hein? Parce que là, il s'aperçoit, en regardant l'excellent, qu'il faut qu'il dise « Parthes, Mèdes et Élamites, originaires du pont et de la Pamphylie. » Puis là, va-t-il finir par arriver au bout de ces noms-là que personne connaît de toute façon? Hein? Mais ce que ça nous rappelle, c'est que dès le moment de le jour de la Pentecôte, les gens qui ont entendu la première annonce de Jésus, puis ceux qui se sont convertis, ben c'était des gens qui venaient de partout. Ils étaient tous rattachés un petit peu à la foi juive, mais ils venaient de toutes sortes de pays, toutes sortes de langues, toutes sortes d'habitudes de vie. Alors, s'ils ont accepté Jésus dans leur vie, puis qu'ils ont commencé à former des communautés, c'était pas parce qu'ils étaient si semblables que ça, mais c'est parce qu'ils acceptaient la venue de l'Esprit-Saint dans leur vie. Et donc, après quelques temps que l'Esprit de Jésus a travaillé ces gens-là, puis les a fait vivre ensemble, on arrive au résultat, ou du moins on pense qu'on arrive au résultat dont on nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, c'est un texte qui est très souvent cité dans beaucoup de nos réunions, de nos retraites, de nos assemblées. Il est très souvent cité parce qu'il présente ce que les gens essayaient de vivre, puisqu'on est invité à vivre, nous autres aussi, comme disciples de Jésus. Alors, on nous dit ceci de la première communauté chrétienne. « Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. » Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient le temple et rompaient le pain dans leur maison, dans l'allégresse et la simplicité de cœur. C'était pas mal beau, hein? Trouvez-vous que ça nous ressemble pas mal? Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, pas si bon que ça. Alors, apparemment, d'après ce qui est dit là, c'était parfait, hein? Les gens mettaient tout en commun, puis allaient même jusqu'à vendre leur propriété pour le partager avec les autres. Hein? Fait qu'on va vous laisser le temps, là, tous ceux qui ont des autos, allez donc et vendre, puis quand vous reviendrez, on partagera. On va vous laisser 10 minutes pour ça, non? Alors ça, c'était ce que les premiers chrétiens, premières chrétiennes, voulaient vivre, puis commençaient à vivre un petit peu aussi sous l'Esprit de Jésus. Mais on s'aperçoit bien, quand on lit les autres livres du Nouveau Testament qui nous parle encore des communautés chrétiennes, que ça se faisait pas de façon aussi automatique que ça. Hein? En particulier, saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, nous dit, « Bien, j'ai entendu parler de vos réunions, de disciples de Jésus, des repas que vous prenez ensemble, des célébrations que vous faites ensemble, puis j'ai pas beaucoup de félicitations à vous faire. Je pense qu'au lieu de vous faire du bien, ça vous fait plutôt du mal, parce que quand vous vous réunissez, vous êtes pas vraiment ensemble. Il y a les riches d'un côté, puis les pauvres de l'autre. Il y a les gens qui se sont apportés un plus gros lunch, puis ceux qui se sont apportés un plus petit, ou même pas du tout. André n'était pas là dans ce temps-là pour partager les lunchs des autres. Alors, puis il dit là, ceux qui ont apporté un gros lunch mangent, puis les autres restent sur leur faim. Alors, c'est pas le repas du Seigneur, vraiment, parce que vous faites pas ce que Jésus attend de vous, qui est d'essayer de vivre dans une communauté. L'apôtre Saint-Jacques dit la même chose aussi, en disant, ben quand vous vous réunissez, vous mettez les riches à la première place en avant, vous mettez les pauvres là où il y a encore un petit peu de place quand il en reste. Donc, oui, il y avait ce désir de suivre Jésus, de vivre en frère et en sœur, mais oui, il y avait toujours aussi cette tendance qui revenait de classer les gens selon leur apparence, selon leur revenu, selon l'origine d'où ils étaient, peut-être aussi, la couleur de leur peau, la langue qu'ils parlaient et tout. Et on avait de la misère à vivre cet esprit communautaire autant que Jésus l'avait demandé. Puis pourtant, malgré ça, on nous dit aussi, dans le même récit des premières communautés chrétiennes, les gens qui les regardaient, parfois, assez souvent même, ils étaient surpris en disant « Voyez comme ils s'aiment ». Alors, il y avait les deux. Hein? Il y avait ce désir de faire communauté, ce désir de s'appuyer comme frères et sœurs, ce désir de s'entraider à être des disciples de Jésus. Ça réussissait en partie, puis il y avait des personnes plus convaincus que d'autres ou qui avaient été déjà assez loin, qui partageaient avec les autres, mais en partie aussi, ça ne marchait pas toujours et l'égoïsme et le repli sur soi et la crainte des autres reprenaient des fois le dessus. Ça, l'ensemble de ça, je trouve que ça nous ressemble pas mal. Est-ce que je vous insulte? Ah, si je vous insulte, dites-le de suite. Hein? Alors, ça nous ressemble pas mal, c'est-à-dire qu'on a tous vraiment ce désir de vivre la vie communautaire pour être des disciples de Jésus, oui, sûrement, parce que si on ne l'avait pas, on ne serait pas ici. Donc, on a tous le désir. On est tous en chemin pour commencer à vivre comme des frères et des sœurs, mais on a tous aussi à continuer d'être en chemin parce que la crainte des autres, le désir de vivre, de vous rencontrer juste des gens qui nous ressemblent, reprend souvent le dessus. Et fait qu'on réussit pas toujours vraiment à partager puis à mettre les choses en commun. Alors, on pourrait reprendre notre souffle un peu en chantant « Voyez comme ils s'aiment ». Ça va peut-être nous donner envie de le faire si on le chante.
Quand vous voyons vivre étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Quand vous voyant vivre, étonner les gens puissent vivre, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Si vous êtes heureux de l'âme, en voyant la
route
des
fruits, je vous aime. Quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. L'esprit de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Donc, on est toujours invité à se convaincre que Être un chrétien puis être une chrétienne, ça peut jamais simplement être moi avec Dieu, Dieu avec moi. Hein? C'est toujours moi avec des frères et des sœurs en lien avec Dieu, en lien avec Jésus. Hein? Être chrétien, être chrétienne, ça peut, c'est jamais une communication seule avec notre Dieu, mais c'est une communication avec notre Père, mais parce qu'on accepte qu'on est des frères et des sœurs. Puis ça fait 2000 ans que Jésus nous a apporté ce message-là, puis nous a donné son Esprit Saint pour être capable de le vivre, mais on est encore en chemin. Hein? Et quand on relit l'histoire du monde en général, puis l'histoire de l'Église en particulier, bien, on s'aperçoit que ce chemin-là, il va jamais très vite, puis qu'il est jamais très, très facile. Cependant, je pense qu'on peut dire que depuis les dernières années, les dernières dizaines d'années, depuis qu'on est au monde, mettons à peu près la plupart d'entre nous, il y a tout de même eu comme des signes, comme des personnes qui ont donné un signe particulier de cette vie communautaire à laquelle on est appelé, de cette façon de se traiter en frères et en sœurs. Puis on est chanceux de dire que Foi et Partage, avec d'autres groupes aussi, vit de l'Esprit qui a été apporté par un de ces grands prophètes-là, hein, par un de ces grands signes de la présence de Dieu, qui est Jean Vanier. Est-ce que Jean Vanier, un jour, deviendra bienheureux, deviendra saint? Ça, on ne sait pas, ni vous ni moi, mais on pense bien que oui. Mais on pense bien, en tout cas, que dans le cœur de beaucoup de personnes qui ont vécu avec lui, qui l'ont rencontré, qui ont écouté ce qu'il avait à dire et ce qu'il faisait, il est déjà vraiment un des grands modèles de la vie fraternelle et de la vie communautaire pour notre monde. Et au fond, Jean Vanier, qui est revenu nous dire, lui, puis les gens de l'Arche, puis ses frères et ses sœurs avec qui il a vécu, comment chaque être humain est un don de Dieu, comment chaque être humain est un trésor, et que même chez les personnes les plus blessées, soit dans leur corps, soit dans leur esprit, soit les deux en même temps, il y a toujours cette présence et cet amour de Dieu qu'on est invité à découvrir. Et quand on le découvre, ben ça nous rend plus riches nous-mêmes. Hein? Quand on découvre la présence de Dieu dans les personnes handicapées, c'est pas seulement à la personne handicapée que ça fait du bien, c'est ce qu'on serait porté à dire spontanément comme ça, mais c'est à chacun et chacune d'entre nous. Et on a le chant à l'Arche qui se chante assez souvent, « Ne sais-tu pas, tu es le temple de l'Esprit ». Peut-être qu'on ne chante pas très souvent à Foi et Partage, peut-être que ça nous arrive aussi des fois, mais c'est un chant que les gens de l'Arche aiment beaucoup. « Ne sais-tu pas que tu es le temple de l'Esprit », c'est-à-dire chaque personne humaine, homme, femme, de tous les âges, de toutes les conditions de vie, est un temple de l'Esprit-Saint. Puis c'est un petit peu ça que Jean Vanier nous a fait découvrir, à la fois par son enseignement, puis surtout par sa manière à lui de vivre. Ou, comme le disait le pape François, on peut dire ça d'une autre façon, chaque être humain est une fin en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se servir d'un autre homme ou d'une autre femme comme étant un instrument, comme étant un objet que j'utilise pour atteindre d'autres choses. Chaque être humain est une fin en lui-même et digne d'être aimé pour lui-même. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment une des grandes révélations de Jean Vanier. D'autres avec lui, bien sûr, depuis 100 ans, l'ont dit aussi et se sont engagés pour le montrer. On peut penser à l'abbé Pierre, on peut penser ici dans notre quartier à Gilles Keigh, à Colette Sanson, à bien d'autres personnes. Mais c'est une richesse qui nous a été révélée puis qui nous dit de façon concrète comment on est invité à vivre comme des frères et des sœurs. C'est pas seulement des enseignements qu'on lit dans un livre, c'est pas seulement des discours, mais c'est des personnes qui l'ont mis en pratique dans leur vie. Et puis, d'un autre côté, ben, on dit toujours, cette découverte-là de la dignité de chaque personne humaine, ça reste toujours une découverte qui est fragile, puis qui est toujours un peu menacée, proche de nous, puis aussi dans le monde. On peut voir une image de ça dans cet événement qu'on pensait être complètement décisif. Vous vous souvenez? Qui était au monde ici en 1989? Tu sais qui était au monde en 89? Hein? Tout ce monde-là qui était au monde en 89? OK, ben c'est pas si pire. Qu'est-ce qui est arrivé en 1989? Le mur de Berlin est tombé. Donc, quand le mur de Berlin est tombé, on a dit, c'est réglé. C'est réglé. Ce qui divisait les gens le plus, le danger de guerre, les divisions politiques, la haine entre les deux blocs, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. C'est la paix dans le monde pour toujours. On s'est bien aperçu dans les années qui ont suivi que ce n'était pas ça. Hein? C'est vrai que depuis 30 ans, il n'y a pas eu de guerre mondiale, nucléaire, mais c'est pas difficile, du moment qu'on ouvre notre appareil de télévision ou qu'on lit un journal, de voir comment il y a encore dans le monde pratiquement autant de méfiance, autant de division, autant d'hostilité qu'il y en avait avant, moins éclatante peut-être, moins catastrophique, mais toujours aussi réelle, parce que le cœur des humains change très lentement. Hein? Détruire un mur, ça c'est relativement facile, mais changer notre cœur, faire que dans notre cœur il n'y ait plus de peur de l'autre, il n'y ait plus de méfiance de ceux qui sont différents de nous, il n'y ait plus de fermeture sur nous-mêmes, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc on a fait des pas, oui, mais il y en a encore beaucoup à faire, puis c'est pour ça que le pape François, depuis qu'il est là, je pense qu'une chose qu'on retrouve dans tout ces prises de parole, c'est toujours cet appel à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos portes aux autres, à pas avoir peur des autres, à accueillir les autres comme nos frères et nos sœurs. Alors, on a encore un bon bout de chemin à faire. Il y a peut-être deux paroles dans l'Évangile qui peuvent nous guider là-dessus si on veut continuer de progresser sur le chemin de la fraternité. La première parole, c'est dans Saint-Luc, chapitre 6, verset 31, « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Dans un sens, je trouve que c'est plus dérangeant que l'autre parole qui est mieux connue, naturellement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime », ça, tout le monde la sait, cette parole-là. C'est celle que les enfants savent le plus dans toutes les paroles de Jésus. C'est la plus importante, évidemment, mais je trouve que l'autre est plus dérangeante dans sa formulation. « Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. » Parce que qu'est-ce que je veux que les autres fassent pour moi? Hein? Je veux qu'ils reconnaissent mes qualités. Je veux, quand je fais des erreurs, qu'ils disent, ben, ça doit être une petite erreur. Ça va revenir. On va y pardonner ça. On va y donner une chance de plus. Je veux qu'ils regardent pas trop mes défauts. Je veux qu'ils m'encouragent, qu'ils me félicitent, qu'ils soient autour de moi. Alors, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Je veux pas que les autres me jugent trop vite. Je veux pas qu'ils s'attachent trop à mes défauts. Je veux pas qu'ils me donnent trop de conseils, un peu, mais pas trop. Je veux pas qu'ils me laissent entendre que je suis coupable d'avoir fait des choses, même si je le suis un petit peu. Donc, tout ce que je veux que les autres fassent pour moi, je suis invité à le faire pour eux, c'est-à-dire, au fond, à leur donner toujours cette chance, à toujours leur dire, ben, t'es un fils de Dieu, t'es une fille de Dieu, et même si dans ta vie, il y a des choses qui t'ont éloigné un petit peu, je crois que tu peux toujours reprendre ce chemin-là, et si on s'entraide ensemble, on va pouvoir être plus fidèles, on va pouvoir être des meilleurs fils et des meilleures filles de Dieu. Alors, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça, je pense que c'est une parole de Jésus qui peut nous guider puis nous amener assez loin sur le chemin de la vie fraternelle, sur la capacité de vivre en frère et en sœur. Et une deuxième parole, je pense, qui est très belle aussi, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7, « Dieu aime celui qui donne avec joie, ou celle qui donne avec joie. » Dieu aime qui donne avec joie, c'est-à-dire que quand tu donnes aux autres, quand tu aides les autres, quand tu soutiens les autres, tu es invité à le faire non pas parce que tu es obligé de le faire, non pas parce que c'est écrit qu'il faut que tu le fasses, non pas parce que on va te faire des reproches si tu le fais pas, mais tu es invité à le faire pour partager ta joie d'être un fils ou une fille de Dieu. Dieu aime qui donne avec joie. Alors, c'est une invitation à essayer que notre vie communautaire, notre vie fraternelle, soit joyeuse parce qu'on a du plaisir à reconnaître ce qu'il y a de beau chez les autres, puis on a du plaisir à leur donner ce qu'on a de beau, nous autres aussi, puis de meilleur dans notre cœur. On pourrait bien chanter encore un peu. Ah, n'importe quel couplet. Tous les couplets sur... Non. Mettons le premier.
Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Oui, ok.
Quand on reconnaît l'arbre, en voyant la beauté des fruits, je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais, quand vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Bon, là, ça va. On devrait être capable de se rendre jusqu'au bout sans s'endormir avec ça. On devrait être correct. Alors donc, la vie communautaire, c'est une réalité qu'on est invité à vivre, mais qu'on peut vivre seulement avec l'action de l'Esprit-Saint en nous, seulement avec ce regard que Jésus nous donne de regarder les autres comme des frères et des sœurs. Seulement en croyant qu'il est capable de nous rendre fraternels les uns envers les autres. Puis en même temps, c'est une merveille, c'est-à-dire que c'est un signe de la présence de Dieu dans notre monde. Alors c'est ça que j'aimerais qu'on se redise, au fond, le mot qu'on répète partout de nos jours, c'est l'évangélisation. On dit on est rendu à une époque où il faut à nouveau annoncer de manière nouvelle le message de Jésus, pour que les gens autour de nous, qui pourtant l'ont déjà entendu, parce que les gens qui nous entourent ici, du moins à Québec et au Québec, sont presque tous des gens qui ont été baptisés dans leur jeune âge, qui ont reçu des cours d'enseignement religieux, qui ont vécu dans une certaine atmosphère où la foi était importante, et pourtant on constate que la majorité de ceux qui nous entourent ont pris beaucoup de distance, au moins par rapport à la vie de l'Église, puis pour un certain nombre aussi, beaucoup de distance de la foi en Jésus. Alors on dit, il y a la nécessité d'une nouvelle évangélisation, d'une nouvelle annonce du message de Jésus, mais finalement, un des chemins les plus importants pour réaliser ça, c'est justement ce qu'on vient de chanter, que les gens, en nous voyant vivre, nous pour qui c'est important, la personne puis le message de Jésus, ils soient capables de dire, ben la vie communautaire qui vivent, la vie fraternelle qui vivent, il y a certainement quelqu'un qui les rend capables de vivre ça. C'est pas juste par leur propre force. Ils sont comme nous autres. Ils ont leurs défauts. Ils ont leurs difficultés. Ils ont leurs échecs dans la vie. Puis pourtant, ils ont l'air, entre eux, d'avoir une vie de frères et de sœurs qui nous surprend d'où ça vient. Et qu'en voyant ça, bien, il y a des gens qui ont le goût de se rapprocher de Jésus et de sa bonne nouvelle. Alors, c'était une façon importante d'annoncer Jésus il y a 2000 ans. On nous dit que les gens, en voyant les premiers chrétiens, disaient « Voyez comme ils s'aiment ». C'est encore aujourd'hui une des façons très importantes d'annoncer Jésus, que les gens, en nous regardant vivre, puissent dire « Voyez comme ils s'aiment » et « Voyez comme ils ont l'air contents d'être ensemble ». Alors, c'est sûr que dans nos mouvements chrétiens, dans nos paroisses, dans nos diocèses, on doit se rassembler puis faire des projets pastoraux nouveaux, se donner des objectifs, se donner des choses à faire dans les prochaines années, travailler à l'unification des paroisses, des communautés, etc. Mais tout ça aura du sens seulement si ça nous permet de mieux nous aimer, seulement si ça nous permet de vivre mieux en frères et en sœurs. Si on fait simplement des projets pour faire des affaires, ou si on réunit 5, 10, 15 anciennes paroisses pour en faire une seule grande, jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est de changer des choses extérieures, mais ça ne nous dit pas si ça nous aide à mieux vivre comme des frères et des sœurs en Jésus. Hein? C'est seulement si on réussit ça qu'on va porter un témoignage de l'Évangile. Il n'y a personne qui a la recette toute faite d'avance. Hein? Si vous voulez, vous pouvez, en sortant d'ici, téléphoner à l'archevêché de Québec, demander à parler à Mgr Lacroix, c'est pas sûr que vous allez le rejoindre, mais tout d'un coup, vous le rejoindriez, puis vous pouvez dire, ben là, Mgr Lacroix, on voudrait avoir la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire pour être des meilleurs témoins de l'Évangile? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Y a-t-il une recette faite d'avance? S'il y en a une, il y a peut-être lui qui la connaît, moi je ne la connais pas. Hein? Vous autres, je ne pense pas non plus. Tout ce qu'il va pouvoir nous dire probablement, c'est essayons ensemble de donner plus de place à Jésus dans notre vie, puis essayons ensemble de faire des groupes de chrétiens, des communautés de chrétiens, de chrétiennes, où ça va paraître qu'on s'aime les uns les autres. Après ça, s'il y a du temps, il va vous parler de tous ces projets qu'il y a pour le diocèse, mais ça, il n'y a pas besoin de vous en parler. Vous irez à Exposité le 14 septembre au soir, puis il va tout vous dire ça. Fait qu'il ne vous le dira pas à la télévision, au téléphone, il va vous le dire le 14. Fait qu'il va attendre au 14. Mais finalement, le plus important, ça va être essayons de prendre au sérieux l'Évangile, puis de vivre cet esprit fraternel, cette charité, ce soutien qu'on se donne pour être ensemble les meilleurs disciples de Jésus. Alors, je pense qu'au long des prochaines années, ça va devenir de plus en plus important qu'on ait ces communautés chrétiennes qui donnent ce signe-là, et Foi et Partage est une de ces communautés chrétiennes, et chacun d'entre nous, en sortant d'ici et en retournant dans d'autres groupes dont on fait partie, dans d'autres mouvements, dans des paroisses où on a des engagements, où on a une présence, bien, ce qu'on aura essayé de vivre ensemble un peu plus intensément pendant 2-3 jours, bien, on est invité à en être des porteurs auprès des gens qu'on va rencontrer chacun dans nos milieux, puis à faire tout ce qu'on peut pour se dire les uns aux autres, oui, la vie fraternelle, la vie selon l'Esprit de Jésus, c'est possible, et on sait que c'est ça qui va nous rendre la vie plus belle et la vie meilleure. Alors, j'aimerais maintenant vous lire une prière qui est contenue dans la dernière... Je vous ai parlé de l'encyclique du pape, « Sois loué, Seigneur ». Alors, je vais vous lire cette prière, puis ensuite de ça, je vais demander à Louisette si elle aimait ajouter 2-3 petites remarques à ce que j'ai dit. Et ensuite de ça, on présentera aussi le travail en équipe, naturellement. Mais commençons d'abord par la prière. Alors, c'est à la fin de l'encyclique « Loué sois-tu, Seigneur » Laudato si, que le pape, après nous avoir dit comment le monde dans lequel on vit est une création de Dieu, est un signe de la bonté de Dieu, et comment, comme chrétiens et chrétiennes, on est invité à apprécier ce monde-là, puis à le sauvegarder pour essayer qu'il soit de plus en plus notre maison commune, puis qu'on puisse vivre ensemble vraiment heureux comme des frères et des sœurs, il formule la prière suivante. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour, pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme des frères et des sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non pas des gens qui l'exploitent, pour que nous semions la beauté et non pas la destruction. Touche les cœurs de ceux, de celles qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, Seigneur, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Alors, ce que j'ai dit a peut-être inspiré à Louisette deux ou trois remarques. Elle pourrait venir nous en faire part. Une ou deux, deux ou trois.
Alors, bonjour. C'est très beau ce que Jean a dit. Hein? Pas grand-chose à ajouter, vraiment. Sauf peut-être deux petites choses. Nous sommes profondément unis à toute la famille humaine, à tout ce qui existe sur la terre. Parce que Jean a dit qu'on ne peut pas vivre la vie communautaire et la vie fraternelle sans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint unit ce qui est séparé. Et tous les êtres humains qui sont sur la terre vivent avec le même esprit. Alors nous sommes partie prenante de cette famille humaine. Dans l'Église, on s'est trop souvent considérés comme étant les meilleurs, les plus fins, puis ceux qui étaient sauvés, puis que les autres, ben, ils s'arrangent comme ils peuvent. Non. Non. Nous sommes tous ensemble partie prenante d'une même réalité. Hein, on va à Dieu ensemble, on n'y va pas pantoute. On va à Dieu ensemble. Deuxièmement, ça me réconforte aussi. Jésus dit dans l'Évangile, vous êtes comme le levain dans la pâte. Hein, vous êtes comme le levain dans la pâte. On est dans nos associations respectives, soit un message, ou encore foi et partage, foi et lumière, ou d'autres associations. Il y en a beaucoup, hein? L'école Saint-André, les gens qui s'entraident aussi. On est comme le levain dans la pâte. Et ça, c'est important. Vous savez, faire du pain sans levain, je vous dis que votre pain est plat, puis écoute, hein, il sera pas mangeable. Alors, nous sommes dans le monde, comme le levain dans la pâte. Et ça, moi, ça m'encourage, parce que je me dis, ben, on a notre place. Comme le petit colibri, hein, qui a sa place, qui donne ce qu'il peut. Et le reste, ben, on l'abandonne à Dieu, qui fait le reste. C'est des petites choses que je voulais ajouter. Merci.
Merci, Louisette. Merci. Alors, donc, dans quelques instants, on aura la pause. Peut-être que Jean-Claude aura deux, trois petits mots à nous dire. Et puis, par la suite, bien, quand on se retrouvera en équipe, j'ai déjà donné aux animatrices, animateurs, deux ou trois questions à partir, justement, de ces phrases-là de la Bible. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Puis, ce qu'on nous dit de la première communauté chrétienne, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, etc. Donc, à partir de ces passages-là, dont on s'est un petit peu parlé, bien, essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on vit déjà comme vie communautaire, puis à quoi le Seigneur nous appelle peut-être pour aller encore un peu plus loin dans cette vie communautaire. Alors, ce sera un peu autour de ça que le partage en équipe tout à l'heure sera orienté. Jean-Claude, aurais-tu des petites précisions à nous donner?